Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux à la librairie Terra Nova. Ce soir, on a l'honneur d'accueillir Léa Rivière pour la première présentation de son livre « L'odeur des pierres mouillées » qui est sorti en juillet, donc très récemment, aux éditions du Commun, dans la collection de poésie. Voilà. Et du coup, on va commencer par une... Léa va nous lire deux extraits de son livre et ensuite on va discuter.
Si. J'avais pas encore commencé. Salut. Je vais lire. Hein. Reviens quand tu diras la vérité, connasse. Léo lance ça et Lila rit comme une fontaine de boue. Elles viennent de baiser. Les insultes, c'est le soft spot de Lila. Ça fait fondre tout ce qui restait de dur en elle direct. C'est la fin de matinée et le début d'automne. Le jour brille par la fenêtre ouverte. Lila chante doucement pour faire vibrer les organes entre les os, des notes tellement graves qu'on les entend à peine. L'autre jour, Léo a demandé « Ça fait quoi d'être une adulte ?» Elles étaient 4 ou 5 dans le lit de Lila le matin de ses 30 ans. Elle l'avait réveillée avec un tout petit gâteau au chocolat et une bougie. Lila a réfléchi un moment et elle a répondu « J'ai plus vraiment le temps pour les gens qui sont pas prêts à dire la vérité. » Elle n'est pas sûre que Léo ait compris tout de suite que ça implique pas l'existence d'une vérité, mais d'un village. Lila chantonne encore en cherchant une photo d'anniversaire dans ses archives. À la place, elle tombe sur un vieux mème qui traîne dans un coin de disque dur. Ça dit « Traditions, peer pressure from dead people ». Il y a des définitions comme ça qui me font bander les seins, le cul, la bite et le réseau lymphatique tout en même temps, elle dit. Léo dit qu'elle l'a vu poster à nouveau sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Lila demande si c'est encore une manière qu'ont les gens de dire « fuck les traditions, fuck la coercition de l'ancien monde, nous on est libres et fiers et un peu libérales mais pas trop, juste entrepreneuses, tu vois ». Léo rigole dans sa barbe. À ton avis, elle répond en allongeant son bras sur le tapis pour s'étirer l'épaule. Lila reprend. L'autre jour à la rivière, on était posés sur des rochers, je râlais encore pour des histoires woke à la con et J a dit « toi c'est pas pareil, t'es une traditionaliste ». Tu vois, quand je dis « être prête à dire la vérité », j'essaye juste de parler d'amour. En attendant, il n'y a plus personne qui s'occupe de ces mortes, pas le time, il y a le monde à décoloniser sur Twitter. Elle continue. Tout à l'heure, quand tu dormais sur moi, je pensais à la différence entre avoir confiance et faire confiance. Et ça m'a rassurée. Lila reçoit un texto de D qui dit « Je prie tous les jours pour qu'on parvienne jamais à abolir le genre lol ». Elle rigole en le lisant tout haut. Même le principe de norme me fait plaisir, c'est chaud, elle grogne. J'avoue, j'ai juste du mal à concevoir comment on peut se passer de narration commune, à tordre, à suivre ou à faire transpirer, peu importe. Et pendant ce temps, les queeros qui n'en finissent pas de se déconstruire, je sais pas combien d'épisodes j'ai loupé entre Tata Derrida aux US et l'émergence du développement perso transféministe, mais franchement, je sale pute, Léo coupe. Ça claque comme une gifle réussie et Lila rit de plus belle. Parce qu'elle adore les trucs réussis et encore plus les trucs réussis par les putes. Elle rit comme une enfant, la bouche immense qui prend la moitié du visage. Puis elle mord le bras de Léo tout doucement, avec la précision méthodique d'une mâchoire qui semble avoir appris à toucher il y a très longtemps dans des prairies secrètes auprès de chevaux centenaires. Et elle regarde la bave briller sur la trace laissée par les dents. Elle fait rouler le biceps rond dans la lumière, ça fait étinceler la salive, comme le givre les matins d'hiver et comme ce que font les limaces aux choses qu'elles ont parcourues. Quand Léo demande à Lila pourquoi elle s'occupe des mortes, Lila se met à pleurer parce qu'elle a la chimie pile au bon endroit, la production locale d'endorphines en plein dans la phase piscine d'amour municipal. C'est l'amour qui est municipal. La piscine a fermé il y a 2 ans, il y avait des fuites et ça coûtait trop cher à la commune. Je suis pas sûr, elle répond. Parfois, c'est plus vrai de mentir, elle pense. La vérité, c'est une affaire de rythme. Un peu plus tard, elle reprend. Hier, dans la forêt, S a crié « Wow !» juste avant de mettre un bâton dans sa bouche. C'était tellement évident et total et précis. Il a goûté le bois et la terre autour comme un perso d'Octavia Butler. Il a presque 1 an et demi maintenant et franchement, je suis d'accord avec tout. Lila dit encore que les traditions, c'est la pratique de faire confiance aux ancêtres. La différence entre avoir confiance et faire confiance, c'est que dans un cas, on peut tout perdre à tout moment. Dans l'autre, on décide de pratiquer encore et encore et encore. Elle dit que les traditions, comme la confiance, sont à faire et à refaire, pas à avoir ou à perdre ou à subir. T'imagines subir la confiance ? Léo dit qu'elle trolle la gauche avec des idées de droite et ça la fait sourire. Lila dit que non, c'est l'inverse. L'autre jour, Lila raconte, T m'a montré un vieux clip des L5 qu'on regardait quand on avait 13 ans, alors qu'on se connaissait pas encore. Ça a fait pousser mes seins de quelques millimètres. À la fin de la vidéo, j'ai dit... Les trans, on a fait de la puberté une tradition. Il m'a prise dans ses bras comme si j'avais prononcé une phrase importante, plutôt qu'une blague hilarante. Il avait l'air d'estimer que ça revient au même. Des lesbiennes géologiques. Elle raconte une histoire. Elles se la disent à elles-mêmes, les unes aux autres, calées entre les pierres à l'ombre des arbres, la rivière un peu plus bas. On l'entend vrombir doucement. Des chênes, un frêne, des touffes de noisetiers, plutôt du granit assez clair, mousse, quartz, lichen, coussin, carafe d'eau, la lumière bouge entre les feuilles. Certaines parlent plus souvent ou plus longtemps, certaines participent en ne disant rien, comme si elles pensaient plus fort ou s'occupaient d'imaginer des détails dans l'espace entre les choses, laissant les autres décrire les formes invisibles déposées là, confiées. C'est difficile de savoir si elles inventent l'histoire au fur et à mesure, comme si c'était un vague souvenir plus ou moins commun évoqué pour la première fois, ou si elles la déplient comme quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qu'elles connaissent déjà. Pragmatiquement, elles racontent l'histoire de la manière exacte, de toutes les manières exactes où ces deux possibilités sont vraies en même temps. Elles disent que les histoires et le monde, c'est la même chose, ou que histoire est synonyme de relation et que c'est la matière du monde. Elles disent que mourir, c'est faciliter des rencontres. Elles ont des bites, des clites, des poils sur les seins, des seins sous les poils. Elles disent que c'est différent, des histoires différentes. Des seins sans poils, des poils sans seins, des seins coupés, des seins virtuels, des seins disparus, des seins qui affleurent, qui arrivent, qui débordent, qui galèrent, qui sont espérés, qui sont invités, qui sont de passage. Des seins qui vont et viennent, des seins dont il n'est pas question. Elles disent qu'elles sont les humaines de leurs chiennes et les vivantes de leurs mortes. Elles se souviennent avoir deviné ou décidé sans trop savoir comment que les traditions sont une forme cruciale de ce que la science-fiction est une puissance d'archive indispensable. Elles ont remplacé collectivement les deadlines par des circles of the dead. Quand c'est le moment, elles forment un cercle. Et elles invitent leurs mortes pour les histoires. Elles en avaient assez des fins coupantes. Avec le temps, elles se sont aussi laissées remplacer transition par acclimatation. Et les conséquences ont été dramatiques. Drame, ce qui arrive quand on écoute les pierres. Elles disent que les drames de la matière fondent leur politique. Ça les fait rire aux éclats. Certaines appellent ça un dramatérialisme, d'autres se laissent glisser dans l'eau glacée qui bouillonne entre les rochers. Lorsque l'une d'entre elles meurt, ce sont les arbres qui s'occupent de tout. Et elles suivent. Le bruit du vent dans les ramures. Elles disent que le genre est relationnel et communautaire, pas individuel ni identitaire. Elles disent que le rôle est à la communauté, ce que l'identité est à la suprématie. Son liant, son infrastructure, ce qui la rend possible, ce dont elle a besoin pour être. Elles disent que les suprématies sont toujours des projets et qu'on abandonne efficacement un projet en arrêtant d'investir plus ou moins passivement dans son prolongement et en s'empêchant de nourrir la fiction qui prétend que son éradication laisserait un vide à remplir. Pour ça, elles s'emploient à susciter en elles des sensations de sécurité par corrégulation des systèmes nerveux, entre eux et avec les choses sans nerfs. Elles appellent ça « ecologies of trust ». Elles disent que le trust, choisir de faire confiance, c'est l'inverse de la guerre contre un système. C'est un compost pour ne plus avoir besoin du système qu'on croyait devoir combattre. Elles disent que combattre quelque chose, c'est faire de cette chose un centre. Qu'alors d'abord, la combattre devient une habitude, puis que cette habitude mute en besoin. Elles disent que si combattre une chose devient un besoin, alors on finit par avoir besoin de cette chose, par en faire pratiquement une raison d'être au monde. Elles refusent de se battre contre ce dont elles veulent se débarrasser. À la place, elles fabriquent des armes molles et elles baisent avec les rochers. Elles s'emploient à saboter les conditions qui rendent possible ce qu'elles ont besoin de voir disparaître. Elles disent qu'elles préfèrent transformer un milieu plutôt que de se battre contre ce qu'il permet. Elles ont remplacé le nerf de la guerre par le système vagal du combat avorté. Elles contaminent passionnément les écosystèmes favorables à l'existence des choses auxquelles elles refusent de s'opposer, au risque de causer leur extinction lente et durable. Elles disent que d'autres ont appelé ça amour. Elles entretiennent la différence entre l'absence de combat et la présence du refus d'un combat. This is how stories matter, they say. La matière des histoires, leur épaisseur, leur place dans les ventres.
Merci beaucoup Léa pour cette lecture. Du coup, on vient d'entendre deux extraits du recueil. Le premier extrait, c'était le début de Amour municipal, le texte qui clôt l'odeur des pierres mouillées. Et le second extrait, c'était le début du texte qui ouvre le recueil, qui s'appelle Arbre molle. Le recueil, il est composé de 4 ou 5 textes, donc Arbre molle, Je suis pas trans dans la forêt, L'odeur des pierres mouillées, une double page aux couleurs inversées qui fait un peu écho à Armes molles et Amour municipal. Il y a des textes qui avaient déjà été publiés auparavant, Je suis pas trans dans la forêt notamment, et des textes qui ont été écrits pour ce recueil. Donc il y a 3 textes qui sont de la poésie et Amour municipal qui est plus un espèce de dialogue érotico-politico-philosophico-hilarant entre 2 personnages qui s'appellent Léo et Lila. Et il y a un extrait de ce texte qui, je trouve, parle bien, décrit bien ce qu'est ce texte. Donc je le lis. Tu crois que je devrais écrire sur les arts de l'influence ? Lila demande. L'autre jour, B a essayé de me convaincre de publier un essai. Il a dit que ça ferait un bon titre. J'ai dit que non, j'aime pas les essais. J'ai dit que j'écris des poèmes. Alors que c'est pas vrai, je suis juste constamment jetée dans des conversations. Du coup, Amour municipal, c'est un peu une conversation, finalement. Voilà, donc c'était un peu pour poser ce qu'est ce texte. Et peut-être, à moins que tu aies envie de réagir à ce essai, poésie, conversation, te lancer, tu t'attraperas ce que tu veux, sur une première question autour du travail narratif, ce qui est appelé comme travail narratif et qui est décrit donc sur la 4e de couverture comme une manière de faciliter l'émergence des récits nécessaires à la vie de celles qui occupent les interstices des narrations hégémoniques. Et c'est quelque chose qui est central dans le livre qui ouvre. C'est le premier texte, du coup, c'est un récit sur des lesbiennes géologiques. Et du coup, la première question que j'avais envie un peu de te poser, c'est quoi ce travail narratif? C'est quoi ces histoires qui font vivre contre d'autres histoires qui peut-être tuent ou assèchent? Et ouais, peut-être te lancer là-dessus, après je te t'amènerai sur d'autres choses.
Ouais. Alors. Je suis tellement dans un moment hyper non-verbal que je sais pas du tout si je vais arriver à parler, mais ça va être super. Et du coup, en plus, il faut parler de parler. Non, c'est super. Enfin, ouais, oh non. qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Bah, je pense que c'est vrai, ça part. Enfin, je trouve ça hyper bizarre d'écrire un livre. Je pense que je suis une personne qui aime beaucoup la théorie. Même si j'aimerais que ce soit pas le cas. Et donc, j'ai l'impression que le livre, enfin, ce livre en tout cas, a fait partie de mes stratégies pour tenter de dealer avec ce problème. parce que je suis vraiment très déçu par la manière dont on a fabriqué la notion de théorie et dont on. Et du coup, ça implique aussi tout ce que ça. La notion. Enfin, comment on apprend, comment on s'apprend, comment on s'enseigne, comment on se transmet, comment on pense ensemble. Enfin. Et je pense qu'au début. Enfin. Il y a un moment où. J'avais vu ce mème. Il y a un mème. Putain, je vais décrire un mème. Ça commence mal. Il y a un mème. Une sorte de mème qui disait, putain, ça fait hyper longtemps, je ne l'ai jamais retrouvé. Ah oui, en fait, c'est comme dans le livre. Ma vie. C'était genre année. En fait, c'était un. Comment on dit? Un graphique, merci. Avec les ordonnées et les. C'est quoi votre truc? Les abscisses? Abscisses. Et en fait, c'était genre nombre d'années depuis que tu es out en tant que personne trans. Et à quel point t'as envie d'écrire sur la transité. Et ça commence très très haut. Et puis ça fait... Et en fait, je trouve ça vraiment très drôle, le fait que typiquement, c'est vraiment it's a thing. Et à quel point, du coup, beaucoup de nos récits, des choses qui sont écrites par les trans, sont écrites par les trans qui transitionnent et qui sont en mode... Qui ont besoin, en fait, de fabriquer, de donner du sens à ce qu'elles sont en train de faire. Et que du coup, enfin, et moi-même, enfin, je vois bien. Par exemple, je suis pas trans dans la forêt. C'est typiquement un truc que j'ai vraiment écrit en très tôt dans ma transition. Et ça fait partie de ces choses que j'ai écrites en me disant, enfin, comment dire. Au début, bah, j'ai fait ce truc-là. J'ai fait un peu du academic drag. J'ai genre repris. Moi, j'ai pas du tout fait d'études supérieures, mais j'ai repris. Un peu le ton, ça m'amusait, enfin ça m'intéressait de faire ce truc de drag, de genre d'écrire comme une philosophe ou comme une sociologue, je sais pas quoi, je sais pas, j'écrivais beaucoup sur l'écologie et la transité et la danse. Et au fur et à mesure, enfin je me suis rendu compte que vraiment, enfin ça plaisait aux gens la manière dont j'écrivais, mais j'étais très très triste quand je partageais ça. Ça me rendait vraiment très triste. Et je me suis rendu compte que c'était lié... Enfin, bon, c'est un peu un détour pour dire que... J'avais besoin de trouver le moment où j'écris Arme molle. C'était vraiment un moment où j'étais en mode... Ok, j'ai besoin de changer de stratégie. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de comment est-ce que je peux... écrire autre chose que de la fausse théorie. Enfin, je pense qu'on a vraiment ce réflexe quand justement les narrations communes et les narrations hégémoniques enfin, on n'a pas l'impression d'exister, d'avoir une place dans ces narrations-là. Il y a un peu ce truc de, eh ben, je vais me battre, je vais prouver que il y a besoin de ça, que c'est réel, etc. Je crois que je me suis beaucoup trouvé piégé dans cette logique. En tout cas, je me suis senti piégé quand je répondais à ça. Et du coup, pour sortir de cet affect-là, de vraiment de grande tristesse, j'ai eu besoin d'écrire plutôt des fictions, des histoires, enfin des récits, parce que j'ai l'impression que ça me mettait à un endroit complètement différent de la manifestation ou du besoin de changement, et que du coup, plutôt que de dire le monde c'est de la merde et il faut que ça soit ça et ça c'est valide, en fait quand je dis ça, je rends la chose dont je parle presque impossible, enfin elle est à faire, mais en fait c'est épuisant, enfin parce qu'en fait elle est déjà faite, enfin, et du coup le fait de changer et de parler aussi au passé, de parler de quelque chose qui existe et aussi de quelque chose qui peut-être existe depuis longtemps, ça a complètement changé ma relation à l'écriture qui est devenue plutôt un truc où je décris ce qui est déjà là. Et du coup, c'est plus sur le mode de la manifestation, et ça a complètement changé l'affect. Et du coup, bon, je sais pas, c'est ce que ça me fait penser à ça. Pour moi, c'est ça que j'appelle le travail narratif, et c'est quelque chose de, vraiment la conversation. C'est vrai que c'est ma manière préférée de fabriquer des savoirs, c'est de vraiment se jeter dans le. Parce que ce que j'aime là-dedans, c'est le risque justement. Ben là, on va le faire un peu. C'est genre OK. Et comment, pour moi, il n'y a pas de savoir sans risque. Il n'y a pas de fabrication de pensée s'il n'y a pas un endroit où on prend le risque de, qu'est-ce que ce milieu-là, exactement cette situation-là, ce moment-là, va me faire dire, et comment du coup je vais apprendre d'elle. Et du coup, si j'apprends, alors je peux fabriquer de la pensée, mais si je suis pas en train d'apprendre, ce que par exemple les essais me mettent pas vraiment, enfin, c'est pas quelque chose qui me met dans cet endroit. Alors j'ai l'impression que je peux pas fabriquer une pensée qui va être généreuse à recevoir. Et voilà. Ça répond un peu à ça.
Ça répond grave. je pensais pas parler de ça tout de suite, mais peut-être pas forcément. Mais enfin, un des trucs qui m'a beaucoup amusé en te lisant, c'est que c'est en fait truffé de références théoriques sans que tu cites forcément, mais on voit vraiment avec qui tu penses. Et du coup, j'avais un peu envie de citer quelques personnes dont la pensée infuse tout ton texte. Bon, y a Isabelle Stengers, notamment avec aussi, et Donna Haraway, tout le travail autour de la SF, là, dont tu as lié un extrait. Du coup, SF, elle l'utilise comme pour science-fiction, mais aussi pour speculative feminism, string figures, donc les figures de ficelle, so far, qui veut dire jusqu'ici, et après, on ne sait pas. Et aussi tout ce travail sur... la phrase de Haraway, c'est « It matters what stories tell stories, it matters whose stories tell stories. » Donc, les histoires qu'on... traduction instantanée. c'est important les histoires avec lesquelles on raconte des histoires, et c'est important les histoires à qui appartiennent les histoires avec lesquelles on raconte des histoires. Et ça, du coup, on sent que ça travaille dans tout ton texte. Mais il y a aussi toute la pensée de Deleuze et Guattari que Stengers reprend, de penser par le milieu à partir des relations plutôt que d'avoir une pensée vraie comme ça qui se balade. C'est aussi la pensée de William James de la philosophie pragmatique. Désolée, j'ai l'impression de faire un espèce de... Mais je trouvais ça hyper fascinant de voir ça. Et aussi un peu de Annie Sprinkle et Beth Stephen avec le manifeste écosexuel, je pense. Et du coup, j'avais un peu envie de jouer à lesquels j'ai pas vu, mais peut-être on fera ça plus tard et pas ici. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de voir comment tu fabriques de la poésie en fait avec de la pensée philosophique hyper dense, et comment ça la rend aussi accessible et ça la met au travail d'une façon hyper belle, et qui met aussi en pratique ce qu'elle propose, parce que Haraway, Stengers, elles ont tout un truc sur l'importance du récit, et du coup en fait c'est comme si genre tu laissais tomber la discussion première et juste tu te lances dans ce qu'elle propose, quoi. Voilà. Et du coup, j'avais un peu envie de... enfin un truc qui est très important du coup dans ton texte, c'est un peu de laisser tomber une pensée du vrai et du faux qui flotte, et de rentrer vraiment par les milieux, et qu'est-ce que les milieux nous font, et qu'est-ce que les relations aux humains, aux plus qu'humains, autres êtres vivants, invisibles, nous font, comment ça nous fait bouger. Et t'as cette phrase que t'as lue, que le monde, c'est la matière du monde, c'est les relations. Et du coup, et ça, ça prend le contre-pied de. Et du coup, t'arrives avec aussi cette notion de rôle au milieu que tu proposes et qui se tisse comme ça dans ce réseau de relations et le village. Et je sais pas, j'avais un peu envie de te demander de parler un peu de ça. Si tu te sentais, ou sinon on part sur autre chose.
Le rôle et le village.
Et les milieux.
Oui, bah je crois que, enfin c'est sûr que mes années, enfin c'est sûr que tout ça infuse. J'ai vraiment transitionné avec Haraway, enfin dans les années là, l'année où. 2016, 2017, quand Staying with the Trouble est sorti. Et donc, enfin, je pense qu'il y a, évidemment qu'il y a ce truc de. Enfin, c'est vrai que toutes ces pensées écologiques ont fait que ça a été possible pour moi de transitionner, justement parce que je crois. Enfin, du coup, ont vraiment nourri ce truc de rapport au réel. Enfin, pour moi. Comment dire, je pense que le génie des savoirs trans, c'est vraiment justement cette relation au réel. De comprendre à quel point, genre, on n'est pas. Enfin, c'est de la théorie trans, Stenger. La différence, c'est quoi qu'elle dit La différence entre la relativité de la vérité et la vérité de la relativité. Pour moi, transitionner, c'est faire l'expérience de cette différence. Et donc, oui. Enfin, dans tout ça, il y a vraiment cette notion que le genre est une chose qui est absolument relation. Enfin, que tout l'est, mais le genre particulièrement. Et du coup, c'est vrai que ça a été un truc très important dans ma vie de pouvoir fabriquer de l'aise là-dedans. De pouvoir dénaturaliser cette parce que beaucoup le réflexe, ça va un peu avec ce que je disais un petit peu tout à l'heure, le réflexe qu'on a, c'est de dire mais c'est vrai, je suis vraiment une femme, je suis vraiment transsexuelle, mais enfin oui. Mais dans le sens que genre si j'essaye d'utiliser le régime de vérité qui est la cause même de la violence structurelle que je subis, je foire complètement. C'est ce que j'appelle une arme molle. C'est que je peux pas, enfin, et c'est Audre Lorde, enfin, c'est tu démolis pas la maison du maître avec les outils du maître. C'est littéralement, genre, matériellement pas possible. Et donc, du coup, c'est très beau. J'étais vraiment, très engagé à un moment donné quand j'étais un peu en mode social justice warrior dans la relation entre écologie et transité dans cette chose que genre enfin je faisais des mèmes sur le fait que de respecter les pronoms des gens c'était la meilleure manière de lutter contre le changement climatique genre dans le sens c'était en fait c'est des mauvais mèmes maintenant je m'en rends compte mais c'est un peu gênant, mais je crois qu'en vrai, je cherchais une chose qui m'intéresse toujours autant, qui est vraiment ce truc de, en fait, si on continue de mal penser et mal jouer, ça me fait penser à mal baiser, on ne va pas, il y a rien qui va changer, Et du coup, pour moi, être trans, c'est vraiment ce truc-là, d'apprendre le génie du jeu, apprendre à quel point. Et du coup, cette chose-là, donc, que j'ai aussi lu dans l'extrait, à quel point le genre est une. Enfin, si tu considères le genre de manière identitaire, c'est-à-dire avec cette notion de. Une vérité cachée, absolue, essentielle, naturelle, En fait, on perd notre temps à essayer de justifier des trucs pas possibles, alors que non, enfin, c'est pour ça que le... Et puis, la notion de milieu, justement, genre, parce que souvent, je me... Dans le truc aussi de troller la droite avec des... Enfin, très souvent, je vois bien que... Oh merde, j'ai dit que j'allais pas dire des trucs problématiques, mais ça va commencer. Je vois bien que je suis hyper... quand je lis vraiment les trucs genre anti-woke et islamo-gauchiste, je suis là... Putain, mais same. Genre vraiment, je pense comme ça. Vraiment, mais pour des raisons extrêmement différentes. Mais at the end of the day, je suis vraiment en mode, mais c'est, ça me rend très triste la manière dont on se défend. Et donc pour moi, c'est, ouais, je crois que je suis vraiment très intéressé par cette notion en ce moment de contre-nature. Parce que pour moi, c'est vraiment à cet endroit de jeu. Enfin, et donc de joie évidemment, mais donc comment enfin voilà, quand je dis que le genre est relationnel, c'est que c'est enfin je sais pas si c'est ça coule de source, c'est vraiment ce truc que enfin en fait c'est comme enfin c'est comment les gens sont en train de fabriquer ton genre constamment, et enfin et pour moi être trans c'est dire ok, alors je vais comment c'est purement un art des influences, dans le sens de genre se dire comment est-ce que je vais fabriquer, faire en sorte que t'as plutôt envie de trouver que je ressemble à une personne que t'as envie de dire cette avec qui t'as envie d'être misogyne plutôt avec qui t'as envie de voilà, enfin c'est la stratégie, tu vois, mais enfin je trouve ça très rigolo, je serais très excitant aussi, et mais dans le sens aussi que c'est pas du tout, et en fait ce que ça permet de dire ça, c'est de prendre très au sérieux la notion de jeu. Enfin en fait je suis pas du tout en train de dire enfin en fait enfin c'est ma vie, j'ai une vie de merde de trans enfin je sais pas, enfin une vie de merde de trans, je vais pas déplier parce que c'est pas un truc qui m'intéresse, mais genre c'est vraiment la merde d'être trans, et genre dans le sens que genre enfin évidemment que je dis ça parce que je pense que c'est vraiment genre le truc le plus fun et stylé, mais c'est enfin c'est hyper chiant, je veux dire c'est fatigant. Mais je me perds en disant plusieurs fois des choses complètement opposées, mais tout est vrai dans le sens que j'essaye de fabriquer un milieu où ça va faire une vérité qui va apparaître, mais en disant n'importe quoi, mais en fait je suis très sérieuse dans le sens que genre ça permet de dire être trans c'est du jeu, ce que je disais c'est que ça permet de vraiment considérer le jeu de manière extrêmement sérieuse, dans le sens où c'est pas de la merde, en fait, quand je dis, enfin, si je me fais chier à m'appeler Léa et à prendre des hormones et à faire pousser mes seins pour que quand tu les vois de profil, tu me dises salut meuf, enfin, je veux dire, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, et donc l'importance du jeu, enfin, oui, je pense que enfin, j'illustre très mal mon propos, puisque j'ai envie de dire que les trans, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur la vérité et sur le jeu, alors que je suis en train de dire n'importe quoi, mais je pense quand même que c'est vrai, dans le sens que ce que j'appelle justement du coup la contre-nature, qui est évidemment un truc qui est beaucoup dit des personnes queer, pour moi c'est vraiment une manière, une méthodologie de dénaturalisation. Et donc c'est comment comprendre que la vérité, c'est une chose qui est accrochée à tout un tas d'importances vitales qui sont extrêmement et essentiellement relationnelles, et que jouer, ce n'est pas faire semblant. Je fais pas semblant d'être une meuf. Genre vraiment littéralement c'est le truc que je fais le moins semblant au monde, mais donc c'est extrêmement sérieux, et du coup c'est pas ma nature d'être une meuf, enfin ça n'est pas, il y a rien de c'est extrêmement contre nature, enfin encore une fois les gens de droite ont totalement raison sur ce coup, genre mais je suis 100% d'accord, genre et merci de le reconnaître, enfin je suis un génie de la contre nature, j'ai la capacité méthodologique mais matérielle, chimique, somatique de comprendre et de potentiellement du coup faire comprendre par le milieu à quel point ça n'est pas la vérité n'est pas naturelle mais extrêmement contre nature, c'est-à-dire joueuse, c'est-à-dire joyeuse, enfin, c'est-à-dire qu'elle est à fabriquer constamment à partir de ce qui est là, quoi. C'est, enfin, c'est hyper excitant, je trouve.
Ça me fait penser à quand on avait cherché le titre de la rencontre. Au début, on avait, j'avais proposé, j'assume complètement, c'est poésie éco-queer. Ce à quoi Léa avait répondu, alors pas du tout. Et elle connaissait quelqu'un de Toulouse qui était passé devant notre vitrine où on avait Nous sommes la nature qui se défend, une vitrine sur l'écologie là au printemps. Et Léa m'avait dit, moi je tripe plutôt sur Nous sommes la contre-nature qui se détend en ce moment. Du coup j'étais là, ah ça c'est un peu long pour un titre. Du coup on avait pensé à détente contre nature, puis poésie contre nature. Et ça me fait penser à une citation du livre que je trouve une des plus belles. Qui est dans Amour municipal, que je vais lire, essayer. Donc c'est Lila qui parle. C'est comme si tout le monde attendait de moi que je passe mon temps à hurler que mes sœurs meurent, alors que j'ai autre chose à foutre, franchement. Je suis occupée à fabriquer les conditions de leur vie longue, de nos vies longues et étincelantes et tranquilles et basiques, contre nature, joyeuses, des vies quoi. J'aime beaucoup cette citation, enfin cet extrait.
C'est marrant parce que tu vois, juste, ça me fait penser que quand je l'ai écrit ça, j'étais là, putain mais pourquoi j'écris contre nature ? Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas trop dans ce truc-là, je sais pas, j'avais pas, là c'est mon truc du moment, la contre nature. Et je l'ai écrit et j'étais là, putain c'est pas clair, genre peut-être qu'il faut que je l'efface, c'est bizarre de dire contre nature à cet endroit-là quand même, genre je parle de trucs hyper violents, enfin ouais de trucs violents et j'aime trop, et enfin ça me fait plaisir que tu le lises parce que genre, franchement je l'ai pas relu depuis très longtemps et c'est ça aussi, je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle j'écris, et parfois je me dis putain mais qu'est-ce que tu fous, enfin ou qu'est-ce que t'as foutu, je sais pas si je peux parler au présent parce que j'ai pas l'impression d'être en train d'écrire, mais parfois j'ai mais vraiment, je crois que s'il y a une raison pour laquelle j'écris, c'est ça, c'est genre, enfin, ce truc de manifestation, même si c'est un peu cringe ce mot en ce moment, hein, mais à quel point, ah oui, j'avais déjà compris, mais je j'avais pas compris que je l'avais compris, et ça me fait trop plaisir, enfin, c'est vraiment joyeux, et j'ai l'impression que, enfin, ça me fait un truc de « Ah oui, bah, c'est bon. » Alors, ça veut dire que c'est suffisamment généreux si moi, quand je le lis, je me dis « Ah bah, super, ouais !» Enfin, tu vois, si je peux apprendre un truc en le lisant, alors ça veut dire que potentiellement d'autres aussi, quoi.
Trop bien. J'ai encore plein de choses dont j'ai envie de parler. Vous, si ça va pas, n'hésitez pas à vous lever, à agiter les bras, tout ça. Enfin, dont j'ai envie que tu parles plutôt. Je sais pas si on aura le temps de parler de ça, mais peut-être juste de le mentionner parce que je trouve que c'est un des trucs qui est vraiment hyper beau dans ton texte et comment il y a plein d'autres êtres non vivants ou non humains qui agissent. Il y a la rivière, il y a les rochers avec lesquels on baise, il y a les orties avec lesquelles on parle exclusivement pendant des mois. Et du coup, tu proposes de juste conjuguer le mot deuil. Donc, ça donne « je deuille à mort ces derniers temps ». Peu cher, elle a bien deuillé cette grognasse. Ou des choses comme ça. Oui, t'as écrit ça, oui.
C'était connasse, il y avait une répétition parce qu'il y avait connasse. C'est mieux, grognasse.
Et... donc c'est dans Amour municipal, un autre extrait, toujours dans Amour municipal, c'est « La fin de l'hétérosexualité, c'est quand les queers arrêteront les break-up et peupleront les villages à la place. C'est la joie de pouvoir enfin deuiller ensemble à nouveau, tout ce qu'on perd, tout ce qui change doucement, tout ce qui est sur le point de se transformer, y compris les molécules fabriquées par nos cerveaux. Quand est-ce qu'on va laisser les morts nous apprendre à aimer ?» Et bon, il y a plein d'autres citations sur, et ce que tu proposes et qui est hyper intéressant et beau, c'est de dire que le rôle d'accompagner ce qui bouge et ce qui meurt, c'est un rôle à prendre dans notre société et enfin qui est pris par des personnes, etc. Mais comment on peut réinventer ça? Donc t'as tout un truc sur être allé voir le travail des doulas, qui sont du coup les personnes qui accompagnent les naissances et les morts. Et de dire, mais en fait, c'est insupportable que ça devienne une identité ou une profession, alors que ça pourrait être juste un rôle à prendre dans un village. Et notamment par les trans qui seraient donc dans la transmission ou la mission trans, de, du coup, d'accompagner ce qui bouge et ce qui mute sans cesse. Et bon, j'ai trop parlé, mais je voulais juste, si tu veux, prendre ce gloubi-boulg et sur ce truc de deuil, de transmission, de transition, si tu as envie de réagir.
Bah oui, c'est vrai que j'ai oublié le truc de rôle dans ta question tout à l'heure, et c'est vrai que c'est, enfin là, un peu une des propositions, si on veut fabriquer la théorie à la danse, c'est de penser le genre à partir des rôles plutôt qu'à partir des identités, vraiment dans ce truc de gender role. Mais du coup évidemment se réapproprier cette notion de rôle parce que pour moi la notion de rôle elle est intrinsèquement relationnelle, puisque justement il y a cette chose de exactement comme le genre, dont la manière dont je parlais tout à l'heure du genre, qui est que un rôle c'est quelque chose qu'on doit ou qu'on peut prendre et qu'on doit nous donner en même temps. Et vrai, enfin pour moi il y a vraiment cette chose là que pour qu'un rôle soit un rôle, il doit être pris et donné dans le même mouvement. Et ça, c'est quelque chose que je... Enfin, c'est exactement... être trans, pour moi, c'est ça. Et du coup, il y a aussi un endroit où Lila dit qu'elle peut pas... Elle pourrait pas être trans sans vivre dans un village où il y avait un truc sur les doulas aussi, là-dessus. Enfin, en tout cas, je vois bien que moi c'est la manière dont je choisis de transitionner aussi, enfin, mais donc lié aussi à tout ce dont tu parlais juste avant, de tous ces silences et toutes ces relations qui sont avec les cailloux et avec les arbres, avec la forêt, que en fait c'est pas suffisant de me laisser, enfin que un milieu il doit être vraiment... Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai besoin que le milieu, c'est-à-dire l'ensemble des relations qui sont en train de me fabriquer et des choses que je suis en train de changer et qui sont en train de me changer, ça dépend tout. Enfin, donc du coup, je suis très attaché à l'endroit qui me fabrique. Et l'endroit que je vais laisser me fabriquer. Et du coup, ce truc de rôle, et notamment, pour moi, justement, en fait, dans ce truc des luttes queer, ou de la libération queer, ou je sais pas quoi, si en fait, si on travaille à partir des identités, on est fucké pour plein de raisons, dont j'ai un peu parlé et que je vais pas déplier, mais aussi parce que, enfin, pour moi, il faut travailler à partir des lieux. Et donc du coup je suis très très investi, je crois, et en vrai ce livre c'est surtout du lobbying pour ça, par le fait de comment on fabrique des formes de vie, c'est-à-dire comment on cofabrique les choses qui vont nous fabriquer, plutôt que d'être en train de lutter contre des trucs qui, et donc de laisser cette lutte nous fabriquer. Et donc du coup le village, pour moi, enfin le village c'est le nom que je donne à cette forme de vie qui pour moi est queer agenda 101 et trans agenda 101, dans le sens que mon expérience c'est que c'est l'endroit, c'est l'échelle qui est en train de disparaître dans le libéralisme ambiant et donc l'extrême urbanisation, mais qui est pas seulement je vais pas commencer à commenter ça, mais enfin qui est une conséquence aussi de, pour moi, de penser à partir des identités, c'est-à-dire parce que si tu penses à partir des identités, tu penses à partir de la fiction, de l'indépendance aussi, qui je pense est vraiment très dangereuse, et du coup j'aime beaucoup, enfin pour penser à partir des interdépendances, pour moi, le village, c'est vraiment un endroit extrêmement fertile. Et du coup, parce que justement par rapport à cette échelle un peu du milieu, qui est un truc où on connaît un peu plus les gens, où les gens nous connaissent un peu plus, donc il y a beaucoup plus de matière pour jouer, pour se rencontrer et pour être fabriqué d'une manière beaucoup moins. Enfin, c'est fatigant d'être fabriqué par des choses qui sont constamment nouvelles. Enfin, moi, ça m'épuise. Et donc, du coup, c'est pour ça que les cailloux, ça me rassure beaucoup. Mais du coup, ce que j'aime dans le village, c'est cette chose qu'on est en train de faire quelque chose beaucoup plus lentement, beaucoup plus, et avec beaucoup plus de constance, beaucoup plus d'implication. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc-là que, à mon avis, on a besoin que le fait d'être queer redevienne un rôle. Et ça pose des très grandes questions. Mais c'est ma proposition et la proposition du village, c'est de se jeter dans ces questions et justement de prendre le risque, un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est un rôle de queer? Mais en fait, se poser vraiment sérieusement la question. Il faut le faire, on va pas y répondre dans une librairie. Mais c'est vraiment ça qui m'excite beaucoup, et c'est ça que je fais dans la vie, surtout. C'est un bon travail. D'essayer de plutôt que de survivre, de fabriquer des conditions dans lesquelles vivre m'intéresserait.
J'ai envie de chercher un passage rapido dans le livre.
Je peux ?
Ou tu veux lire toi-même ? Je ne sais pas si je vais lire aussi bien. j'essaye. C'est donc dans Amour municipal. Prendre soin des ancêtres, ça veut juste dire arrêter de tuer les mortes. L'autre jour, un type a dit à la radio « C'est parce que les choses ne durent pas qu'elles durent. » Il est mort quelques mois plus tard et je l'entends encore mieux maintenant. En anglais, passing on, ça veut dire transmettre et ça veut dire mourir. Une pierre deux coups. Si on s'occupe pas de faire durer nos mortes, on les empêche de mourir vraiment. On leur retire le luxe de la polysémie, on les tue de ne pas les avoir laissés mourir, de ne pas les laisser durer. Passing on, passing away, passing for, c'est qui les artistes du passing si c'est pas les trans? T'as déjà vu un parent qui parente pas ou une danseuse qui danse pas? J'ai essayé les deux, je conseille pas niveau santé mentale. T'imagines une trans qui transmet pas, une trans qui te fout pas en trans. En trans, je veux dire dans l'état chimique où ton corps sait avec les mortes, sait avec le monde. C'est exactement comment la matière sait, comme les bébés savent. T'imagines une trans qui est pas au service des transitions du monde. Une trans qui s'occupe pas des mortes, qui s'occupe pas de rendre capable le monde de fabriquer des mortes, capable de faire de nous des héritières, c'est-à-dire des ancêtres, capables de le devenir. Bon, et après c'est encore plus beau tout le temps. Voilà. Mais je trouve ça illustre bien cette histoire de rôle et j'ai trouvé ça vraiment très beau parce qu'il y a cette histoire, il y a la mort, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais il y a aussi l'idée d'accompagner ce qui bouge, et ça peut être la puberté, mais ça peut être, t'as une phrase très drôle aussi à un moment sur les déménagements et genre comment on arrive à survivre à un déménagement et d'accompagner comme ça tout ce qui bouge sans cesse, et ça rejoint vachement tous les trucs de pensée écologique aussi dont tu parlais tout à l'heure. Je regarde quelle heure il est. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à vous. Il y a une figure qui apparaît dans le texte, c'est l'école de magie. L'école de magie, c'est un peu transitionner comment tu apprends à voir et à faire, ou juste vivre une expérience minoritaire, en fait, où t'es tout le temps obligé de composer avec des choses que quelqu'un qui est dans l'expérience majoritaire va pas voir, donc avec des invisibles tout le temps, et comment, du coup, tu tisses quelque chose autour de ça, de l'ordre d'un savoir magique, en fait, à activer. Et du coup, je lis une citation, toujours de Amour municipal. « Elles sont où nos histoires à nous ? Quand est-ce qu'on arrête de jouer à répéter les leçons des maîtres en faisant comme si on n'existait que pour ou contre eux et toujours dans leur thème? Si on ne prend pas nos responsabilités magiques, qui va les prendre? Qui perçoit les choses invisibles mieux que les personnes qui se les prennent dans la face tous les jours? Les expériences minoritaires, c'est des écoles de magie. Et du coup, peut-être, si tu avais envie de nous parler des écoles de magie.
Ouais, bah, ça va vraiment dans la direction que je prenais juste avant, dans justement ce truc de rôle. Et pour moi, en tout cas, c'est la proposition. Mais en fait, c'est aussi des propositions. C'est justement pas un essai. Et donc, du coup, justement... Enfin, justement, juste après l'extrait que t'as lu tout à l'heure, il y a Léo qui répond, enfin, tu te calmes, genre, laisse les transferts ce qu'elles veulent. Et c'est vraiment aussi ça. Enfin, pour moi, ce dialogue-là, c'est vraiment un dialogue entre moi et moi, dans un truc de genre, non, mais les trans, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça notre rôle. Et aussi, mais on se calme. Parce que j'ai un peu cette tendance. Et, mais en fait, mais il y a quand même, du coup, c'est aussi une stratégie pour avancer comme ça, mais faire des propositions. Se mettre au travail dans qu'est-ce que ça voudrait dire d'imaginer ce rôle trans, sans, donc proposer des choses sans y répondre, et donc évidemment le truc de l'école de magie, c'est justement, enfin oui, c'est les savoirs qui sont fabriqués par ces expériences là, par nos expériences, sont en fait extrêmement importants, extrêmement écologiques, extrêmement contemporains, pas dans le sens qu'ils sont nouveaux, mais dans le sens que c'est extrêmement urgent qu'on les comprenne, et tout le, enfin vraiment tout le monde en a besoin. Et donc du coup, pour moi, il y a aussi un peu un truc de enfin je parle de responsabilité magique apparemment dans cet endroit, et vraiment oui, enfin je suis d'accord. Putain, le cringe. Non, mais enfin oui, c'est un peu ce truc là bah enfin On râle parce qu'on s'en prend plein la gueule, et oui, enfin on râle, enfin, et on fait bien de râler, enfin je râle tout le temps, mais aussi bah comment aussi on prend nos respect, enfin en fait c'est quoi qu'on doit au monde, enfin parce que le monde nous doit beaucoup, mais aussi enfin ces trucs de dette, ils sont aussi relationnels, et comment, enfin en fait comment est-ce qu'on prend le risque de donner quand on a l'impression de qu'on nous prend tellement. C'est un risque énorme, enfin c'est horrible en fait, on a envie de prendre quand on nous prend, enfin mais donc c'est un peu ce truc là de genre bah en fait ces savoirs là ils sont tellement nécessaires, et comment est-ce qu'on devient capable de pouvoir les transmettre. Mais du coup c'est ça la notion d'école de magie, c'est-à-dire que c'est une double notion, dans le sens que, et c'est pour ça que je dis on devient des écoles de magie, on devient nos propres écoles de magie, dans le sens que genre c'est une manière de penser qui est complètement non innocente. De dire que en fait de les oppressions systémiques nous apprennent, fabriquent des savoirs énormes sur le monde et sur sur tout un tas de choses, et que en fait plutôt, enfin en fait c'est, je suis pas du tout en train de dire, ça serait très gênant de comprendre ça comme ah oui super, enfin it's a kinky imaginary, mais en gros pour moi il y a des savoirs qui sont nécessaires à partager, et que on peut enfin la manière de renverser ça, c'est d'utiliser ces savoirs, ce que je veux dire, c'est que du coup dans ce rôle, enfin une des propositions pour qu'est-ce que c'est que, ok, penser être queer, être trans à partir d'une notion de rôle et plutôt que d'identité, et ben un des rôles, mais en fait il y a un truc aussi ancestral, enfin que tout le monde fait depuis très longtemps, enfin partout, il y a vraiment c'est comment est-ce qu'on devient capable de partager nos savoirs, et comment est-ce qu'on rend capable les personnes de les recevoir, et donc dans le village c'est aussi ça, c'est que en fait enfin, et du coup bon moi je suis une personne très littérale, donc je suis littéralement en train de créer une école de magie dans un village, mais ce que je veux dire, c'est que l'école de magie, elle est à l'endroit de en fait ce monde est une fucking école de magie, il est en train de m'apprendre la magie, je deviens une école de magie parce que je deviens capable de transmettre ses savoirs, ou je peux le devenir. Et je deviens aussi capable du coup de créer l'école de magie qui va permettre de les comprendre, mais du coup Et du coup, c'est... Oui, c'est ce truc... C'est ça, la proposition. Je sais pas si c'est clair.
Si, c'est clair. Du coup, juste, je lis la phrase que j'ai pas lue juste après. En effet, c'est Léo sourit et dit « Girl, laisse les trans faire ce qu'elles veulent.
» Voilà. Il faut me le et rappeler de temps en temps.
Et tout, non, mais tout, Amour Municipal, c'est vraiment juste que des personnes... Ouais, que oui et non, et ça se construit comme ça.
Et un truc que j'ai pas dit, je me rends compte, c'est que dans école, enfin c'est un mot un peu lourdingue, mais genre justement, c'est aussi repenser vraiment la notion d'école, et ça va avec un peu ce que je transmettais plus tôt, c'est-à-dire réapprendre à apprendre, réapprendre à enseigner, enfin justement apprendre dans la double, comme guérir, c'est un mot qui a guérir, qui c'est aussi dans arme molle, mais apprendre en français, il y a ce truc assez joli que ça veut dire learning and teaching, ça veut dire les deux. Et pour moi, dans cette relationnalité-là, de cette pratique-là, d'apprendre, enfin, il y a pas, tu peux pas apprendre sans apprendre. Et du coup, l'école de magie, elle parle de ça aussi. Autistic vibe. Ouais.
C'est comme dans guérir.
Ben guérir, tu peux pas guérir sans guérir. Guérir quelqu'un. Ouais. Je suis en train. Enfin, tu vois. Guérir, c'est comme apprendre. Il y a le double truc, tu vois. Ouais. Je guéris. Enfin, ça peut vouloir dire je suis en train de guérir, et ça peut vouloir dire je suis en train de guérir quelqu'un. Et c'est dans un autre texte. Il y a ce truc de il y a pas de guérison sans la double implication, l'implication écologique de ce que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas de guérison possible si les deux sens du terme ne sont pas présents dans la pratique.
Trop bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions si on ne vous a pas trop assommé? Et vous pouvez partir sur des directions complètement différentes, enfin, ce que vous voulez. Et normalement, il y a un autre micro.
Oui. oui, j'imagine que oui. Bah pour moi, c'est vrai que c'est ce qui... danser, c'est exactement... Enfin, je pense que c'est le bon moment de poser cette question, puisque c'est ce dont on vient de parler, c'est exact... Enfin, danser devrait être compris comme... Et je crois que c'est le cas dans certaines langues, comme exactement avec la polysémie du verbe guérir et du verbe apprendre. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, danser, c'est vraiment la pratique qui m'apprend constamment à cette chose-là du milieu. C'est-à-dire que je suis complètement en train, on pourrait dire, d'être dansé et de danser. Enfin, il y a pas l'un sans l'autre. C'est vraiment une pratique de l'écoute, quoi. Et c'est et donc pour moi, c'est l'endroit où j'apprends ça. Enfin, quand je dis je danse, c'est OK, je me mets à l'écoute, enfin je me mets à enfin j'aime pas trop ce truc de à être dans c'est pas le monde parce que c'est pas non plus suffisant, c'est genre je prends le risque de me lancer dans cette transaction bizarre de je prends le risque de transformer mon milieu, genre de fabriquer un événement mais qui est complètement fabriqué par ce milieu-là. Et donc, de me lancer dans ne pas savoir, ne jamais, enfin, de faire exprès de ne pas savoir, c'est-à-dire, enfin, de décider de ne plus savoir ce que je suis en train de faire ou ce qu'on est en train de me faire faire. Et, bah, je pense pas que j'écrive encore comme ça, je sais pas si j'écrirai un jour comme ça, je sais pas si c'est mon but en vrai, mais en tout cas, c'est ce que j'aime dans la conversation. Et c'est pour ça que je trouve que la conversation est souvent une méthode beaucoup plus sage et beaucoup plus excitante et intéressante que le livre, même si c'est un peu blasphématoire de dire ça ici. Parce que elle est... Mais enfin, le livre fait ça autrement et je pense que je suis trop jeune pour le comprendre encore. Ça devrait être interdit de toute façon d'écrire des livres aussi jeunes. Mais... En tout cas, j'en fais vraiment l'expérience dans la conversation, ce truc-là. Et en tout cas, j'essaye d'écrire comme ça, c'est-à-dire comment est-ce que je... C'est pour ça que c'est que des conversations, en fait, dans le livre au final. C'est comment... parce que pour moi, encore une fois, sinon, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de joie. Si je ne suis pas en train d'être, ouais, de prendre ce risque-là. Et vraiment, la pratique de la danse, c'est le meilleur endroit pour s'apprendre ça, je trouve. C'est l'endroit où j'apprends ça.
Ce que tu viens de dire, ça me donne envie de lire un bout. Comme ça, ça vous laisse le temps de réfléchir s'il y a une autre question. Ou pas. C'est dans Armes molles. Parfois, elle baisse des PD qui écrivent des chansons et des poèmes de pédale pour les remercier des savoirs partagés. Un jour, un PD un peu anthropologue a écrit un article nuancé, sexy et généreux, intitulé « Poétique de la bite et lesbo-géologisme, sous-sol, friction, perspective ». Lors d'une première lecture par un groupe enthousiaste, a été décidé d'un commun accord de composter le manuscrit plutôt que de le publier pour faire pousser des légumes à la place et de laisser cet épisode devenir une légende subsidiaire à raconter quand il fait chaud. On pourrait composter ton livre. Oui. Non, mais il y en a plein. On peut en composter un.
Avec plaisir.
Non, c'était pas pour dire.
Putain, t'as tout gâché, Laurence. Merde.
Je vais partir. Et ben, du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de réagir? Sinon, je propose qu'on arrête.
Ouais.
Du coup, s'il y a des personnes qui veulent réagir, enfin poser des questions, quoi, on peut se laisser encore une minute comme ça pour réfléchir. Et sinon, bon, je pense qu'on on va move forward.
Non, c'est sûr, c'est vraiment cette notion dont je parlais un peu au début. L'enjeu, c'est de comprendre à quel point la fiction fabrique le réel et justement que un peu comme quand je dis le jeu, c'est pas faire semblant. En fait, toute l'idée que le jeu, ça serait faire semblant, ou que la fiction, ça serait autre chose que le réel. Enfin, c'est des notions qui fabriquent une idée de nature derrière. C'est-à-dire, c'est peut-être. Ça pourrait être une longue conversation qui est pas vraiment peut-être le bon timing, mais. Et donc, pour moi, l'enjeu dans écrire de la fiction, d'en jouer, c'est de toujours le faire avec la rigueur de ne pas impliquer l'existence d'une nature derrière, c'est-à-dire d'un réel qui ne serait pas celui-là. Et donc la fiction, c'est la pratique de se souvenir, mais je vais redire la même chose que quand je vais parler de danse, parce qu'en fait je parle que de ça, que je redis la phrase sinon on est perdu. La fiction, c'est la pratique de se souvenir que il n'y a pas, enfin on n'est pas, merde, j'ai fait un détour, maintenant j'ai perdu ma phrase. qu'on est constamment en train de fabriquer le réel et d'être fabriqué par lui. C'est ça la pratique de la fiction pour moi. Et du coup, c'est ça aussi le jeu. Enfin, et donc pour moi, enfin, mais du coup, je. Ouais, non, je vais pas. Ouais, on va s'arrêter sur cette phrase très. Très sage, je crois. Parce qu'on est fatigué, je sens. Merci à tout le monde pour votre écoute et d'être là. C'est cool.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Merci beaucoup, Léa, pour ta présence. Vraiment merci.
Merci à toi pour ton enthousiasme.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteurices à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.